Radio Kapi.
Oh, Kapi.
À la une, cette évasion spectaculaire hier après-midi à la prison centrale de Matadi. Tout est parti d'un conflit entre deux policiers commis à la gare de cette prison. Ils ont ouvert le feu et les détenus ont profité de cette confusion pour s'enfuir. Bilan, deux morts dont un policier et un détenu. Nord Kivu, les activités économiques et autres ont été perturbées et le trafic routier entre Goma et Sake est coupé hier dans la matinée. Une manifestation des jeunes de Nzulo pour protester contre une opération mixte FARDC et éco-garde de l'ICCN déployée sur place pour restaurer l'intégrité des limites du parc national des Virunga. Trois jeunes auraient été blessés. Province du Tanganyika, la SNEL annonce dans un communiqué la coupure du courant électrique dans la ville de Kalemie pour 30 jours. Raison, les travaux de curage du lac à la centrale hydroélectrique de Bendera. Pour en parler, nous recevons Marcel Sagali, chef de division production et transport à Bendera. Madame, Messieurs, bonjour. Ce journal part du Congo central. Évasion spectaculaire hier vers 15h à la prison centrale de Matadi. Selon le ministre provincial de l'Intérieur, tout est parti d'un conflit entre deux policiers commis à la gare de cette prison. S'en est suivi un échange de tirs. Un policier a été abattu. Profitant de la situation, plusieurs détenus ont tenté de fuir sous les coups de feu des autres policiers commis à la gare de cette prison. Dans cette confusion, un détenu est aussi mort par balle. On enregistre également plusieurs blessés graves parmi les détenus, sans oublier le policier qui a abattu son collègue. On écoute le ministre provincial de l'Intérieur du Congo central, Papi Mambo Luamba, au micro de Nana Plurish Mambo.
Il y a eu échange entre deux policiers. Ils étaient en train de se disputer. Et l'autre a ouvert le feu sur son collègue. Et ça a touché au niveau de la jambe. Et l'autre, en répliquant, il a tué son collègue policier, son commandant. Il y a eu maintenant les prisonniers qui ont ravi l'arme au commandant qui était tombé sous le coup de balle. Et heureusement, on avait récupéré cette arme-là. C'est ça qui a occasionné. Mais au niveau du port central, il y avait des tirs déjà. Ils ne pouvaient pas sortir par là. Ils ont escaladé le mur. C'est là où ils sont partis. Il y a eu au total, ce que nous avons constaté sur place, c'est 12 blessés. Et au côté policier, il y a un policier qui est transféré à l'hôpital de la police au niveau de Soyo. Et il y a un policier qui est arrêté au niveau de l'état-major de la police. Et les autres ont été verbalisés. Nous serons leur sort après.
Dans l'actualité aussi, le président Félix-Antoine Tshisekedi a présidé hier au camp Tchatchi, ici à Kinshasa, la cérémonie de passation de commandement entre le général Chiwewe Songesha Christian et le général-major Ephraim Kabikiriza, tous deux de la garde républicaine. Cette cérémonie a débuté par la parade de l'unité spéciale de protection du président de la République, menée par le général Chiwewe, commandant sortant de la garde républicaine, nommé chef d'état-major des forces armées de la RDC. S'adressant aux troupes, il a rappelé les missions de cette division spéciale affecté à la sécurité du chef de l'État qui se résume en la protection de l'institution président de la République, ses hôtes de marque, sa famille ainsi que son patrimoine immobilier et mobilier. Il a par la suite exhorté les éléments de la GR à la discipline, maire des armées. À l'élite de la protection du chef de l'État, il a rappelé la devise « N'ai jamais trahir mon président » comme un serment de loyauté au commandant suprême des forces armées et de la police nationale congolaise. Parlons santé à présent avec la couverture santé universelle en RDC. Après l'annonce du chef de l'État, les députés nationaux Léon Mondolé et Bart Nzoloko ont introduit vendredi à l'Assemblée nationale une proposition de loi portant couverture santé universelle en RDC. Cette réforme sera la deuxième plus importante après la gratuité de l'enseignement primaire car elle va permettre à chaque Congolais d'accéder facilement aux soins de santé, expliquent les auteurs de cette proposition de loi. Le président de la commission socioculturelle de l'Assemblée nationale et auteur de cette loi plaide pour son examen en mode d'urgence afin de soulager la misère de la population qui ne sait accéder aux soins de santé de qualité. L'élu de l'Isala, Léon Mondolé, explique au micro de Michel Kifindangoy.
Nous venons de penser à la misère du peuple. Si vous allez dans tous les hôpitaux, vous trouverez des concitoyens et concitoyennes presque emprisonnés. Ils étaient malades, d'autres sont soignés. Mais à la fin, ils ne savent pas sortir de l'hôpital parce qu'ils n'ont pas de possibilité pour payer les factures. D'autres meurent sans être soignés, tout simplement parce qu'ils n'ont pas de moyens pour se faire soigner. Voilà pourquoi nous venons de déposer aujourd'hui une proposition de loi portant couverture santé universelle en République démocratique du Congo. Cette loi permet de répondre à ces préoccupations du peuple. Cette loi permet de restaurer la justice pour que tout le monde ait quand même accès aux soins et aux services de santé. Voilà pourquoi nous souhaitons que cette proposition de loi très attendue par notre peuple va être examinée en procédure d'urgence.
Une délégation conjointe Banque mondiale, UNICEF, FAO, PAM et gouvernement congolais a effectué une mission au Kasaï central pour évaluer le programme multisectoriel de nutrition et de la santé. Cette équipe qui a bouclé sa mission hier s'est rendue à Changana et Bunkonde dans le territoire de Dibaya pour se rendre compte de la mise en œuvre de ce programme de gouvernement congolais. Programme exécuté par les agences onusiennes citées sous financement de la Banque mondiale. François Kadima nous en parle.
Le programme est financé par la Banque mondiale à hauteur de 559 millions de dollars américains pour 4 provinces, dont le Kasaï central, où le projet appuie les zones de santé. L'objectif est de réduire drastiquement la malnutrition chronique, a indiqué le coordinateur équipe santé à la représentation de la Banque mondiale en RDC, Dr Michel Mouvoudi.
Et par rapport à ça, il y a des subventions qui sont apportées au niveau des hôpitaux, au niveau des centres de santé, des médicaments, des réhabilitations, des équipements médicaux seront aussi apportés pour ces structures de santé. Et donc, on devrait quand même s'enquérir de la situation sur terrain, mais aussi écouter les bénéficiaires.
Parmi les agences d'exécution du programme sur terrain, il y a l'UNICEF. Denis Garnier, responsable de la nutrition en RDC, revient sur les interventions de l'UNICEF sur terrain dans ce projet qui est à ses débuts.
Projet d'urgence, l'UNICEF apporte plusieurs points. Le traitement des enfants maigres, la prévention de la malnutrition pour les enfants de 6 à 23 mois, et puis des aspects eau, hygiène, assainissement. Tout ce qui est construction d'infrastructures WASH, et aussi tout ce qui est aspect communautaire, notamment pour éviter la défécation à l'air libre.
Signalons que ce programme multisectoriel de nutrition et de la santé va jusqu'en 2026. De Kananga, François Kadima, Radio Kapi.
Et puis, contribuer à l'élimination de la trypanosomiase humaine africaine, appelée aussi maladie du sommeil, comme problème de santé publique, c'est l'objectif de la rencontre d'hier entre la Coordination nationale de renforcement du système communautaire en RDC et les membres du groupe thématique communication. C'est dans le cadre du plaidoyer au programme national de lutte contre la trypanosomiase humaine africaine. Notons que la contribution à l'élimination de cette pathologie comme problème de santé publique passe par la sensibilisation des médias pour toucher ainsi les décideurs tant nationaux que provinciaux, afin de mettre des moyens conséquents dans cette lutte. On écoute à ce sujet O'Brien Nzola, chargé de communication à la Coordination nationale de renforcement du système communautaire en RDC. Il est au micro de Richard Junior Kamunga.
Il faut dire que la CNRSS est en période de transition avec PAF dans le cadre du plaidoyer politique en faveur de la lutte contre la trypanosomiase. C'est une des activités qui a été planifiée pour mettre au courant les journalistes de la réalité de la THA en République démocratique du Congo. En fait, les faire adhérer dans cette lutte. Donc, pour la CNRSS, en tout cas, nous attendons beaucoup de choses auprès de vous, journalistes. Nous voulons que vous nous accompagniez dans le cadre de cette lutte, parce que ce n'est pas la nôtre, c'est aussi une lutte qui vous concerne également. Et la CNRSS, à travers ses projets, va sensibiliser les parlementaires, les autorités, tant nationales que provinciales, pour qu'ils alignent une ligne budgétaire pour soutenir ou appuyer les activités de lutte en République démocratique.
Direction la province de l'Équateur. Plus de 600 candidats participent demain dimanche en Mbandaka au prochain concours national de recrutement des nouveaux magistrats. À deux jours de l'événement, Radio Kapi est descendu au site de passation à l'ISP Mbandaka. La délégation nationale est en place, des items aussi dans la ville. La remise des macarons a rassuré les participants malgré les difficultés de transport et de séjour pour les visiteurs. Ce concours donne aussi une lueur des solutions à la carence actuelle des magistrats dans les différentes juridictions du Grand Équateur. Paul Richard Malengela.
Tout un fait prêt, a expliqué le premier président de la Cour d'appel de l'Équateur, qui coordonne au plan local ce concours des magistrats au site de Mbandaka. Jean-Pierre Liambi Mopepe se dit également confiant que tout se passera bien et surtout que ce concours apportera la solution à la carence des magistrats dont souffrent les juridictions de l'Équateur.
Le recrutement est lancé notamment dans ce but, d'augmenter le nombre de magistrats qui peuvent travailler dans les coins les plus difficiles comme la province de l'Équateur où nous sommes entre eau et forêt. Parfois, l'infrastructure ne suit pas. pas que ce test va répondre à ce besoin. Tant soit peu.
Au moins 627 candidats sont attendus au site de Mbandaka, venant des provinces de l'Équateur, de la Mongala, du Nord et Sud Ubangi, ainsi que de la Tchopa au Grand Équateur. Ils auraient voulu passer le concours chacun dans sa province, vu la majeure difficulté des déplacements qu'ils ont connus. Toutefois, ils ont le moral haut pour affronter ces concours.
Les contraintes, c'est par rapport à la distance, c'est aussi les moyens de transport, c'est nos propres moyens de bord.
Il y a des difficultés parce que nous restons chez les familles. On n'a pas vraiment des moyens pour rester dans les hôtels.
Nous allons bosser très dur pour que nous soyons, n'est-ce pas, recrutés comme magistrats.
Enfin, le président du Conseil provincial de la jeunesse d'Équateur a déploré la faible participation par rapport au dernier concours il y a 10 ans. Agapao Yipondo a invité les organisateurs à bannir le favoritisme comme la fois passée, qui aurait, selon lui, découragé plusieurs candidats à se présenter cette fois-ci. Mbandaka, prochain Malengue, la radio Okapi.
Pendant ce temps, au Nord Kivu, l'association des volontaires du Congo, ASVOKO, appelle le président de la République à initier des réformes au sein de l'appareil judiciaire. Cette organisation des droits humains réagit ainsi à la manifestation des jeudis des avocats et défenseurs judiciaires du ressort du barreau de Goma pour son président, alors que les toges noires s'en prennent au premier président de la cour d'appel. C'est tout l'appareil judiciaire affecté par la corruption qu'il faut assainir. En réaction, 24 heures après cette marche pacifique des avocats, défenseurs judiciaires du barreau de Goma contre le premier président de la cour d'appel, ce dernier a affirmé hors micro défier toute personne lésée de lui fournir toutes les preuves de ses accusations qu'il juge fausses. Gabriel Ouaménia nous en dit plus.
Dans sa réponse à Radio Okapi, le premier président Twindibandi Nicolas précise que sa conscience est tranquille et toute pression de quelque nature soit-elle ne peuvent jamais altérer son sens des responsabilités et sa détermination à remettre de l'ordre dans l'appareil judiciaire au Nord Kivu avec un système judiciaire caractérisé par la corruption, le clientélisme, les désordres et dysfonctionnements bien organisés qui s'observent dans la chaîne pénale. Nicolas Twindibandi soutient qu'il est temps d'extirper les maillons défectués au sein de l'appareil judiciaire en province qui mettent à mal la bonne administration de la justice. Dans sa constance, le premier président révèle qu'après sa nomination à la tête de la cour d'appel du Nord Kivu, un autre scénario de ce genre a été monté contre lui. Les mêmes prédateurs ont affirmé haut et fort que ce n'est pas lui qui était nommé à la tête de la cour d'appel du Nord Kivu. Le juge Twindibandi accepte qu'il ne reste pas définitivement dans le Nord Kivu, mais du moins, il y sortira tête haute d'avoir accompli sa mission qui lui a été confiée par sa hiérarchie, dont le président de la République qui l'a nommé à ses fonctions. En définitive, il met au défi toute personne et donne sa main à couper à quiconque parmi ses avocats de brandir les preuves de corruption ou du clientélisme pour lesquels il est accusé. Goma, Gabriel Ouaménia, Radio Okapi.
Merci de nous recevoir dans le territoire de Masisi au Nord Kivu. Ici, nous apprenons que le trafic routier entre Goma et Sake a été coupé pendant toute la matinée d'hier vendredi. Un groupe de jeunes de Nzulo ont barricadé la route entre Mugunga et l'entrée du village de Nzulo depuis 6 heures locales pour manifester leur colère. Les activités économiques et même les inhumations au cimetière Chemin du Ciel à l'extrême ouest de Mugunga ont été perturbées. Bernardin Nyangi nous raconte.
Ces jeunes manifestants contestent une opération mixte FARDC et Cogarde de l'ICSN déployée sur ordre du gouvernement congolais pour restaurer l'intégrité des limites du parc dans la zone de Nzulo. Lors d'une altercation avec les manifestants, la police déployée sur le terrain est parvenue à rouvrir la route. Trois jeunes auraient été blessés, indiquent certaines sources coutumières locales. Pour rappel, les constructions illégales et ventes illicites des parcelles dans une étendue de plus de 1100 hectares de la zone sud du parc national de Virunga, situé dans une partie du village Nzulo au territoire de Masisi, était déjà en cours. C'est sur initiative de certains autochtones brandissant un jugement de la cour d'appel. Mais ces activités avaient été suspendues jusqu'à nouvel ordre sur une décision du gouverneur militaire Constant Dima, datée du 15 septembre 2022. Depuis quelques jours, une unité mixte d'une centaine d'éléments FARDC et Cogarde de l'ICSN est déployée dans la zone pour exécuter cette mesure du gouverneur. Cette unité a la charge d'assurer la sécurité de cette partie de ce site du patrimoine mondial. Goma, Bernardin Nyangi, Radio Okapi.
Actualité internationale. Cela fait exactement un an et demi ce samedi que le journaliste Olivier Dubois est retenu captif au Mali. Il s'agit de la plus longue durée de captivité pour un journaliste français depuis plus de 30 ans, indique Reporters sans frontières. Il a été enlevé le 8 avril 2021 à Gao, dans le nord du Mali, où il s'était rendu pour un reportage sur le groupe de soutien à l'islam et aux musulmans, groupe djihadiste lié à Al-Qaïda, qu'il a finalement enlevé et pris en otage. Depuis son enlèvement, Olivier Dubois est apparu dans deux vidéos, mai 2021 et mars 2022, diffusées par ses ravisseurs, dans lesquelles il explique lui-même s'est trouvé dans les mains de ce groupe djihadiste et demande à tous ceux qui œuvrent à sa libération de poursuivre leurs efforts. Les autorités maliennes et françaises ont à plusieurs reprises fait part de leur entière mobilisation sans entrer dans le détail des actions entreprises. Et puis, Jacob Zuma est libre de ses mouvements. L'ex-président sud-africain a purgé hier sa peine de 15 mois pour avoir snobé la commission enquêtant sur la corruption sous son règne à la tête du pays.
L'invité.
La SNEL annonce la coupure de l'énergie électrique dans la ville de Kalemie, province du Tanganyika, pour une durée de 30 jours. Ceci est contenu dans un communiqué de presse. Motif de cette coupure, les travaux de curage du lac de retenue au niveau du barrage de Kiimbi à la centrale hydroélectrique de Bendera. Cette nouvelle inquiète déjà la population. Pour en parler, nous recevons Marcel Sagalikaïté, chef de division production et transport à Bendera. Il s'entretient avec Paulin Munanga.
Monsieur Marcel Sagalikaïté, bonjour.
Bonjour, monsieur le journaliste.
D'ici quelques jours, il y aura coupure du courant électrique dans la ville de Kalemie. C'est une coupure sèche qui prendra un mois. Il y a déjà une crainte de la population sur une éventuelle recrudescence de l'insécurité dans la ville.
L'objectif de la SNEL, c'est produire, transporter, distribuer, vendre la consommation à la population. Si la population a besoin de l'énergie électrique, nous devons faire la maintenance de nos équipements, entre autres les travaux de curage. Je crois que la crainte de la population ne peut pas arrêter les travaux de la SNEL. Vous ne pouvez pas chercher à avoir du courant et dire qu'on ne fasse pas la maintenance. Non, non. Ils doivent accepter que ces travaux se fassent pendant cette période de fin de saison sèche, parce que le curage, nous devons le faire pendant cette période. On ne peut pas le faire pendant la période de crue, des grandes pluies. L'insécurité, le gouvernement provincial est informé de cela et prendra des dispositions pour assurer la sécurité de la population. Quant à nous, SNEL, la coupure est totale, mais il y aura des groupes thermiques, des groupes électrogènes qui pourront desservir les points stratégiques de la ville de Kalemie pendant plus ou moins 8 heures par jour.
Oui, l'autre crainte de la population de Kalemie, c'est la maladie des choléra, et dont les cas sont en hausse actuellement. Le manque de l'énergie électrique qui alimente la pompe de la régie des eaux, cela pourrait empêcher la population d'avoir de l'eau potable, qui pourrait recourir à une eau qui n'est pas potable.
La SNEL pourra desservir en énergie thermique les points stratégiques. Régie des eaux a aussi un groupe électrogène. Nous, on en a deux. Mais ils ont un groupe électrogène qui peut produire les courants pour alimenter leurs pompes et desservir la population en eau potable.
Dans les communiqués que la SNEL a lancés, la coupure va intervenir dans la première quinzaine du mois d'octobre. C'est plus précisément quel jour?
Si nous avons parlé de la première quinzaine du mois d'octobre, c'est parce qu'il y avait des préalables. Premier préalable, l'effectif de la division production et transport est insignifiant et que les équipes d'appui devraient venir de la direction générale, donc à Kinshasa, et d'autres devraient venir de Kolwezi, là où il y a notre direction de production, et Lubumbashi, notre direction régionale. Les intervenants en appui devraient venir de ces trois villes. Et pour le moment, 90% de l'effectif d'appui est déjà à Kalemie. Les 10%, le dernier missionnaire arrive ce vendredi parce qu'ils ont déjà les billets et l'équipe sera constituée pour allait débuter les travaux. Ça, c'était le premier préalable qui est réalisé à 90%. Le deuxième préalable, c'était le matériel. On n'a pas de drague là au barrage, on va travailler manuellement. Il nous faut le nécessaire, donc des tronçonneuses. Nous devons avoir des bêches, des pioches et les autres accessoires. Nous devons avoir des motopompes, des tuyauteries d'aspiration, de refoulement. Donc ce sera un grand travail avec un grand nombre de personnel, donc de journaliers.
Pourquoi n'avez-vous pas cherché tout simplement une machine de dragage pour faire tout ce travail au lieu de vous contenter des moyens qui ne sont pas efficaces et qui vont vous coûter cher?
La SNEL avait envisagé cela, il y a même des experts qui sont venus, qui sont allés au barrage. Les conditions ne sont pas réunies pour faire parvenir les dragues au niveau du barrage. Sur le mont Mitumba, vous avez une pente des endroits de 95 degrés, cela était impossible, c'est pourquoi le curage va se faire manuellement.
Monsieur le chef de division production et transport Bendera, Marcel Sagali Kaité, je vous remercie.
Notre invité répondait aux questions de Paula Munanga. C'est la fin de ce journal, coordonné par Noëlla Luzitu Kabambi, Jean-Noël Mokondo à la mise en onde et Belinda Bosuma vous l'a présenté. Merci de rester branché sur la fréquence de la paix.